Campus. Orléans. 88.3 FM.
Vous écoutez Radio Campus Orléans.
88.3 FM.
Sin razón, policía. De toute façon, il va falloir fouiller leur passé à fond. Politique ? Politique, sexuelle, financière.
88.3.
Passez-moi au peigne fin tous les fichiers gauchistes.
Quel bordel ça va faire en ville.
Dans toute la France même.
Radio Campus 88.3.
Le temps est venu de fêter nos différences.
Oui, mais peut-être pas en public.
Média et numérique libre. Ondulation.
Ondulation.
Média et numérique libre.
Ondulation.
Ondulation.
Bonjour à toutes et à tous, il est midi sur Radio Campus Orléans. Je suis Erwan et je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée de festival. Aujourd'hui, dans Écoute ta fac, on rencontrera Nathalie Sonnac, qui est professeure d'université. Alors, professeure d'université à Paris-Panthéon-Assas. Elle est membre également, présidente du comité d'éthique des données d'éducation et anciennement membre du CSA de 2015 à 2021. Avec elle, on parlera justement de médias, de numérique, des nouveaux enjeux des médias sur justement ces outils avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'importance d'éduquer nos citoyens, les citoyens, les citoyennes à justement s'informer. On parlera de tous ces sujets avec toi également, Marine. Salut. Alors tu es également avec moi sur ce plateau Ondulation. Marine, est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Marine, s'il te plaît? Ouais, bonjour Marine. On t'entend toujours pas, ça fait rien. En tout cas, on va commencer en musique cette émission avec un titre de Yuzik, c'est Windsor Safari Park sur Radio Campus Orléans. We'll be right back. À l'instant sur Radio Campus Orléans, c'était Windsor Safari Park de Yuzik. Vous êtes toujours dans Écoute ta fac dans cette édition spéciale d'ondulation.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Et notre invité ce midi, c'est Nathalie Sonnac. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'université Paris-Panthéon-Assas, présidente du comité d'éthique des données d'éducation et ancienne membre du CSA entre 2015 et 2021. Pour m'accompagner ce midi sur ce plateau, j'ai Marine.
Bonjour à tous.
Et je crois que tu as une première question à poser à notre invité.
C'est ça. Alors, quel a été le moment déclencheur dans votre vie qui vous a poussé à avoir un intérêt pour les questions éthiques des médias ?
Ouh, ça remonte à loin en fait. Moi, je suis donc professeure à l'université depuis déjà une bonne quinzaine d'années. Mm-hmm. Je me suis toujours intéressée à la question des médias ou rôle des médias. En tout cas, j'ai réalisé une thèse de doctorat sur le rôle de la presse et l'économie de ce secteur et le rôle que les médias pouvaient jouer. Donc, si j'ose dire, dès qu'on plonge dans l'univers des médias, dans la compréhension de leur fonctionnement et le rôle qu'ils peuvent jouer dans l'espace public, eh bien, évidemment, la question d'éthique, aujourd'hui on l'appelle ainsi, mais des questions en tout cas de pluralisme, de déontologie et d'éthique de journalisme sont prégnantes.
D'accord.
Alors, Nathalie Sonnac, vous êtes ancienne membre du CSA. J'écoutais un petit peu des interviews que vous avez pu donner par-ci par-là et vous disiez que, notamment pour répondre à la question sur la visibilisation des femmes dans le sport à l'approche des Jeux Olympiques, en tant qu'ancienne membre du CSA, je vais y arriver, vous disiez que quand on n'est pas communiqué, en fait, on n'existe pas. Quand on n'est pas visibilisé, on n'existe pas.
Oui, c'est vrai, j'avais trouvé un peu cette formule de ce qui ne se voit pas n'existe pas, tout simplement parce que lorsque j'étais membre du Conseil donc supérieur de l'audiovisuel qui s'appelle aujourd'hui l'ARCOM, mais à l'époque quand j'y étais, vous avez raison, s'appelait le CSA, eh bien j'avais monté une opération qui s'appelait Sport féminin toujours, qui faisait suite finalement à des études qui avaient été réalisées dans les années 2010, 2012, 2013 par le département des études du CSA et qui mettait en évidence le nombre de retransmissions sportives féminines sur les écrans. Et très vite, les chiffres ont montré que très peu en fait de retransmissions sportives féminines sur les écrans. Je trouvais ça totalement injuste. Donc plusieurs membres s'étaient déjà entachés de cette question et en tout cas interrogés sur ce point-là. Donc moi, j'ai monté l'opération qui s'appelait d'abord 4 saisons du sport féminin, puis ensuite qu'on a appelé sport féminin toujours. Et c'était l'idée justement de mobiliser, de sensibiliser l'ensemble des médias audiovisuels et radiophoniques sur la pratique sportive par les femmes, sur le fait qu'aux Jeux Olympiques, cette année en tout cas, il y aura autant de femmes que d'hommes, mais sinon dans les résultats, il y avait beaucoup de femmes qui à 36% ou à peu près 36%, voire jusqu'à 40% rapportaient des médailles. Donc je ne comprenais pas en fait, et ça m'a beaucoup interrogée, j'en ai beaucoup discuté autour de moi, pour les raisons pour lesquelles une femme sur deux dans la vie est une femme, que les femmes pratiquent du sport et qui pour le sport et la pratique sportive ne se voyaient pas sur les écrans. Donc c'est cette opération que j'ai montée, que j'ai menée, et je l'ai faite en coopération avec le ministère des Sports, le secrétariat d'État à l'égalité hommes-femmes, et puis le CNOSF, c'est-à-dire le Comité national olympique sportif français, à 4 institutions pour que finalement on s'empare de cette question et que chacun avec ses compétences puisse poser sur la table cette question du sport féminin avec comme objectif cette plus grande mise en visibilité.
Alors également en tant qu'ancienne membre du CSA, j'imagine que vous avez travaillé sur énormément de dossiers à côté de ça. Vous parlez de démocratie en danger. Est-ce que comment vous en êtes arrivé justement à ce constat que la démocratie est en danger avec justement l'information ? Quel lien on peut faire entre en fait justement l'information, les médias et une démocratie en danger, Nathalie Sonnac ?
Eh bien, ça revient en fait au rôle que jouent les médias dans la société. Finalement, le fait de s'informer, le fait de savoir est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des êtres humains. On a tous envie de savoir. Et la question de l'information, de la nature de l'information, évidemment, joue un rôle central. Et dans nos démocraties, eh bien, les médias, que ce soit il y a jusqu'à une vingtaine d'années, la presse, la télévision, la radio, le cinéma, l'affichage, les cinq dits grands médias, participent justement d'être et sont des vecteurs de démocratie. Donc, ils participent de notre démocratie avec une entente commune qui est celle que des journalistes professionnels qui ont une éthique ou une déontologie, qui vont aller chercher une information dite de qualité, c'est-à-dire qui va être sourcée, qui va être vérifiée, qui va être hiérarchisée. Tout cet ensemble-là sera donné et puis ensuite, eh bien, dans des sociétés démocratiques, on en débat, on en discute, on en analyse. Et depuis une vingtaine d'années, j'imagine que ça ne vous aura pas échappé, et on vit un véritable Big Bang médiatique, une transformation à la fois de nos usages, de nos pratiques en matière informationnelle. C'est particulièrement vrai chez les plus jeunes, où on dit que plus de 70% en tout cas les études montrent que plus de 70% des moins de 25 ans s'informent prioritairement sur les réseaux sociaux. À la fois, c'est quelque chose de cette arrivée de ces médias sociaux, que ce soit Twitter, Insta, Snapchat, aujourd'hui on parle de TikTok, donc sont à la fois des acteurs fantastiques parce que qui nous ouvrent finalement avec plus de liberté d'expression, de communication, nous ouvrent des possibilités de plus s'exprimer et plein d'événements, je pense évidemment dernièrement au mouvement MeToo, n'auraient jamais eu lieu sans ces médias sociaux. Donc on a tous cette possibilité de poster, d'écrire, d'échanger. Mais cet écosystème-là, cette possibilité nouvelle, s'inscrit dans un écosystème qui est complètement bousculé et dont les règles ne sont plus du tout les règles de l'ancien temps. Et or, c'est toujours les règles de l'ancien temps qui sont appliquées. Donc aujourd'hui, le fait que tout à chacun puisse s'exprimer, c'est bien d'un point de vue démocratique, mais dans le même temps, dans la mesure où ça se fait sans règles, il y a une quantité de fake news, voire de manipulation d'informations qui altère en fait la qualité de notre démocratie, qui altère la qualité de notre vivre ensemble et qui pose des questions qui sont vraiment des questions d'ordre démocratique. Lorsqu'il y a une manipulation de l'information, lorsque les gens ne reçoivent pas l'information suffisante pour pouvoir débattre, pour pouvoir animer un débat sereinement et se faire une opinion, alors ça pose problème et des actions comme la prise du Capitole ou tout simplement les élections du Brexit ou je pense au mouvement 5 étoiles en Italie, on voit bien que les médias sociaux ont joué un rôle et que ces médias-là n'ont absolument pas la mission que peuvent avoir des médias traditionnels, celle de produire une information de qualité.
Pour vous, les médias traditionnels et le numérique sont en concurrence ou plutôt un moyen de collaborer ?
Alors, les deux, mon général, si vous me permettez, c'est à la fois évidemment le fait qu'il y ait une multiplication du nombre de médias est une bonne chose, la concurrence est une bonne chose, mais dans le même temps, effectivement, ça peut être une concurrence qui est considérée comme déloyale, à la fois parce que les règles qui encadrent les médias traditionnels et celles qui encadrent les réseaux sociaux ne sont pas les mêmes, et puis les missions non plus ne sont pas les mêmes, autant les médias traditionnels, qu'ils soient publics ou privés, doivent absolument fabriquer, produire et s'assurer, en tout cas, que la fabrique de l'information se soit dans des conditions qui sont celles qui sont définies par nos démocraties, ce qui n'est absolument pas le cas, et n'ont pas comme mission, Google et Facebook n'ont pas la mission de fabriquer une information de qualité. Et là, ça vient se percuter, et du coup, ça vient se concurrencer, mais dans le mauvais sens du terme.
Alors, on a également des médias qui sont nés grâce justement à ces outils numériques, en fait, aux réseaux sociaux. Parlons un petit peu de ces médias, en fait, qui, pour beaucoup, parfois n'ont même pas de site internet et uniquement vivent avec ces réseaux sociaux. Quels sont les risques pour ces médias et comment est-ce qu'ils apparaissent dans ce paysage audiovisuel et médiatique ?
Alors, je ne sais pas à quel média vous pensez, mais si, par exemple, vous prenez un Hugo Décrypte ou un Gaspard G, à l'Oopsider, on a énormément, finalement, de nouveaux médias qui sont nés avec le numérique et qui participent de notre liberté d'expression, de communication et qui sont les nouveaux vecteurs de démocratie. Donc il y a des médias, je pense peut-être celui qui a initié finalement et qui a un modèle d'affaires qui est extrêmement solide, je pense à Mediapart. Bon, bah, c'est notamment, lui pour le coup, c'est un média qui est complètement, si j'ose dire, dans les clous de la fabrique d'une information de qualité sur laquelle on peut, avec laquelle on peut ne pas être d'accord, hein. Mais en l'occurrence, qui va nous apporter une information, celle-ci aura été vérifiée et elle est mise au pot commun de la réflexion. En revanche, d'autres médias, d'autres sites véhiculent des informations qui sont des informations soit manipulées, soit totalement fausses. Et là, c'est là que ça pose problème. Est-ce que c'est fait intentionnellement? C'est ce qu'on appelle, c'est là qu'il y a un danger quand il y a fausse information. C'est lorsque l'information, finalement, intentionnellement, elle est manipulée. Et là, ça pose problème.
Alors, une information de qualité, vous le dites également, c'est une information qui coûte cher. Comment est-ce qu'on fait pour produire de l'information qui coûte cher, donc une information de qualité? Est-ce que le prix, ça va forcément déjà dans un premier temps avec la qualité de l'information? Et quand on est dans un milieu qui va de plus en plus vite, où il faut produire toujours plus avec toujours moins de budget, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir quand on est un média qui veut produire une information de qualité?
Mais en fait, vous mettez exactement le point sur le particularisme de ce secteur, et c'est que l'information coûte extrêmement cher à produire. Une information qui est, quand on dit de qualité, c'est celle qui a été sourcée, c'est celle qui a été vérifiée, c'est celle qui est transparente, c'est celle qui est indépendante. Ça, c'est un point aussi essentiel, indépendante à la fois des pouvoirs politiques, mais évidemment des pouvoirs financiers. Donc cette information-là, c'est elle qui participe finalement, qui nous permet de se vivre ensemble et ce débat démocratique à un prix. Or, aujourd'hui, et à un coup, pardon. Et donc, aujourd'hui, si l'on regarde les études, montrent que 86% des Français sont prêts à. En fait, je vais le dire à l'envers. 86% des Français ne payent pas pour s'informer. Donc, la problématique première pour l'éditeur, qu'il soit de presse, de site en ligne, ou de chaîne ou de télévision, voire de radio, évidemment, c'est comment vais-je couvrir mon coût de production si mon premier client à qui je dois m'adresser et qui est mon premier interlocuteur, c'est bien la raison pour laquelle on fabrique de l'information, c'est pour le lecteur, c'est pour l'internaute, eh bien, n'est pas prêt à payer. Donc, tous se sont tournés depuis le 19e siècle vers la publicité, mais celle-ci est devenue peu à peu la première source de financement. Donc, aujourd'hui, cette très forte concurrence dont on parlait précédemment conduit finalement et a conduit avec l'arrivée du numérique au départ les titres de presse à être distribués gratuitement. Et ça a porté une atteinte terrible évidemment à la valeur économique et la valeur de l'information s'est écroulée parce que l'information a un coût et il faut bien trouver quelqu'un pour couvrir ce coût de production. Donc aujourd'hui, le modèle économique qui se pose, la problématique première des acteurs traditionnels, c'est comment couvrir le coût de production. Donc, ils sont en train de chercher finalement de nouvelles sources, de nouvelles ressources. Et côté site, finalement, ils se retrouvent dans cette problématique également, à part que la plupart sont gratuits. Et c'est là qu'on rentre véritablement dans le modèle économique de ces nouveaux acteurs qui, eux, sont plongés dans le numérique et dont le modèle repose sur une collecte massive de données que nous laissons tous en consommant, en partageant, en échangeant, on laisse des traces. Et toutes ces traces-là constituent un stock de données qui, ensuite, va permettre à ces acteurs soit de nous proposer des services qui sont encore plus en adéquation avec ce que l'on aime, et ça pose des problèmes de bulles informationnelles, mais en même temps vont proposer ce paquet de données à des annonceurs qui vont pouvoir nous cibler directement, mieux nous cibler. Donc, ce que l'on observe depuis quelques années, c'est que les annonceurs, qui étaient la seconde source de financement des médias traditionnels, se tournent de plus en plus vers des sites en ligne et délaissent finalement les médias au risque de voir leur modèle économique vaciller.
Alors, pourquoi les lecteurs, les lectrices, auditeurices, justement, des médias ne payent pas? Parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce qu'on a trop été habitué peut-être à avoir des médias gratuits. Qu'est-ce qui explique justement ce manque d'engagement?
Oui, je pense que c'est ça. C'est parce qu'ils n'ont pas le sentiment, ils n'ont plus la connaissance, peut-être pas simplement le sentiment, mais la connaissance de ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire que l'information a un coût. Donc, il y a à la fois, évidemment, cette habitude. Ensuite, il y a cette floraison, cette foison d'informations à laquelle on peut accéder gratuitement. Et puis, ça ne vient pas simplement ça du numérique. Toutes les chaînes de télévision qui sont accessibles gratuitement sur la TNT notamment, eh bien, couvrent leurs coûts de production via la publicité. Donc, cette publicité permet un accès gratuit pour le téléspectateur à des programmes qui sont des programmes de divertissement, mais également des programmes informationnels. Donc aujourd'hui, dans un univers archi-concurrentiel et qui est plongé dans le numérique, eh bien, se repose la question de la financiarisation de l'information et donc effectivement d'aller de nouveau chercher des lecteurs, les réhabituer à chercher des lecteurs, consommateurs, téléspectateurs, à payer finalement pour s'informer.
Alors, je pourrais vous poser la question justement sur quelle liberté des médias quand on est financé par de la publicité, que les publicitaires peuvent s'en aller si jamais l'information qui est produite par le média ne leur convient plus. Moi, j'aimerais davantage vous poser la question par rapport à l'État. Quel rôle est-ce que l'État peut jouer pour justement financer les médias? Est-ce que c'est possible? Dans quel cadre?
Alors, vous avez deux questions. La question de la liberté des médias par rapport aux annonceurs, je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. C'est-à-dire que si évidemment votre journal, votre radio, par exemple, ne dépendait uniquement qu'une seule source de financement, c'est-à-dire d'un seul annonceur, effectivement, là, vous auriez un problème d'indépendance. Aujourd'hui, c'est pas en ces termes-là que ça se pose. Ça peut se poser, évidemment. Hein. C'est pour ça qu'il y a des chartes, c'est pour ça qu'il y a une déontologie, c'est la raison pour laquelle il y a des conventions que les chaînes de télévision signent avec l'ARCOM, donc le régulateur. Donc, cette liberté-là ne doit pas être entravée, effectivement, par celui qui finance, par celui qui paye. Et pour le coup, vous n'en avez jamais ou quasiment pas qu'un seul annonceur, mais vous avez une myriade d'annonceurs. Et puis, donc ce qui permet de répondre au deuxième volet de votre question, c'est le rôle de l'État. Ben, le rôle de l'État, il est fondamental puisque c'est le rôle de la loi, en fait. Il pose un cadre. Vous avez la loi de 1881 pour la presse écrite, et puis vous avez la loi de 1986 pour le secteur de l'audiovisuel, c'est-à-dire télévision, radio, et aujourd'hui, plateforme de partage de vidéos, qui entre également dans l'escarcelle du régulateur. Et là, eh bien, les chaînes de télévision signent des conventions, notamment avec l'ARCOM, en suivant en fait des obligations qui sont édictées par la loi, comme une égalité, comme une parité, comme une égalité femmes-hommes, comme pour évidemment une représentation du pluralisme, pour un équilibre dans les courants de pensée, pour que l'ensemble des courants de pensée puissent être exprimés, notamment pendant les périodes électorales, et bien nombre comme ça d'autres obligations, d'obligations de financement également, de la participation du financement à la création. Donc on a un écosystème qui est véritablement encadré, certains même considèrent qu'il est trop encadré pour les acteurs traditionnels, et qui permet justement de garantir cette liberté de communication et d'expression, et de nous assurer de ce pluralisme des courants de pensée au sein des chaînes de télé.
Est-ce que, on va peut-être poser un gros mot, est-ce que c'est compatible du coup d'être un média donc sans peut-être l'aide de l'État dans une société qui est, attention, capitaliste, et dans une recherche en fait de l'ultra rentabilité? Est-ce que c'est compatible? Comment on peut faire pour exister sans forcément faire la course au plus de visibilité? Comment on peut exister sans jouer justement dans cette course-là qui du coup détériore finalement la qualité de l'information, Nathalie Sonnac?
Ouais. C'est pas complètement un ultralibéralisme, c'est tout simplement l'information évolue dans un marché qui est le marché de l'information. Donc ce marché-là, nous, en France, aux États-Unis, il est totalement libéré avec une première règle d'amendement qui est le free speech. Nous, en France, c'est un marché de l'information, mais c'est un marché de l'information qui est, une fois encore, cadré, qui est régulé, qui est avec des obligations, avec des rapports qui sont rendus, avec des contrats d'objectifs et de moyens pour l'ensemble des chaînes de télévision du service public, idem pour Radio France. Donc on voit qu'en Europe, hein, les écosystèmes de l'audiovisuel sont très équilibrés. La directive européenne dit bien on a besoin d'un audiovisuel public fort, et dans le même temps, en parallèle, on a besoin d'un service privé qui lui aussi l'est. Alors, sachant que on a finalement deux services privés un peu distincts, on a un service privé donc commercial qui sont accessibles gratuitement et qui est financé par la publicité, et puis on a également un service privé. Donc pour le premier, c'est TF1, sont les chaînes, les groupes comme TF1, M6, Énergie et bien d'autres, groupe Altis. Et puis de côté autre service privé, celui-ci qui est financé par l'abonnement, je pense en particulier au groupe Canal. On a quand même un écosystème avec, c'est pour ça qu'il faut raison garder, hein, avec aujourd'hui 26 chaînes de télévision qui sont accessibles via la TNT gratuitement. On en a des centaines qui sont accessibles et qui sont conventionnées par l'ARCOM sur le satellite et sur le câble. Et puis, on en a évidemment des milliers de chaînes de télévision qui, elles, sont accessibles via la DSL. Celles-ci, par contre, ne sont pas sous le régime de l'ARCOM, et c'est là que ça pose ça pose question, parce que là, un entrepreneur privé, notamment YouTube, si vous ne correspondez pas à ses attentes, si vous ne rentrez pas dans son cahier des charges, il vous débranche sans aucune autre considération, ce qui n'est pas du tout le cas pour une chaîne de télévision telle que je les ai décrites précédemment, notamment celle de la TNT.
Parlons un petit peu de l'actualité. Hier, Emmanuel Macron annonçait qu'il souhaitait faire d'Arte la plateforme justement européenne, alors qu'aujourd'hui la chaîne est donc franco-allemande. Il souhaitait davantage le porter à l'intégralité de l'Europe. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous, Nathalie Sonnac, pour que cette transition, cette ouverture au reste de l'Europe se passe bien ?
Écoutez, en tout cas, je pense que c'est déjà beaucoup le cas, parce que Arte est présent partout dans toute l'Europe. C'est une chaîne qui est présente et c'est une plateforme. Surtout, c'est plus qu'une chaîne. Hein. Aujourd'hui, Arte, c'est vraiment complètement plongé dans l'univers du numérique, accessible dans beaucoup de langues, une plateforme avec des alliances avec beaucoup d'autres chaînes européennes. Donc, ils en ont pris déjà le chemin, même si aujourd'hui, la structure capitalistique conduit à ce que, effectivement, ça soit franco-allemande, comme vous le disiez à juste titre. Toutefois, cette plateforme a toutes les chances et tous les moyens pour pouvoir se développer, et qui est d'une qualité exceptionnelle, avec une diversité de contenus, que ça soit autant dans des programmes de stock, c'est-à-dire de films, de séries, de documentaires, qui sont issus de nationalités diverses, que en même temps de programmes dits de flux, avec, je pense notamment aux concerts qui sont retransmis et qui sont accessibles sur la plateforme. Donc Arte.fr a réussi incroyablement sa mue, puisque qui aurait dit il y a 10 ans que Arte serait regardé également par les jeunes? Je crois pas grand monde.
Nathalie Sonnac, professeure à l'université Paris-Panthéon-Assas, présidente du comité d'éthique des données d'éducation et ancienne membre du CSA de 2015 à 2021. Restez avec nous sur Radio Campus Orléans pour cette édition spéciale d'Écoute ta fac d'ondulation. Dans quelques instants, Marine vous posera des questions autour du thème de la censure et de la liberté des médias. Pour l'heure, on écoute un titre de Yaya Bey, Sir Princess Bad Bitch, sur Radio Campus Orléans. À tout de suite.
Fucking thing from today. Well, I'm still a fucking winner, cause I did it my way. And I wouldn't ever rather be. And I wouldn't ever rather be. No other thing but the thing I am. No other thing but the thing I can. Do from the heart, cause I know I am. That fucking girl just cause I am. See, the beautiful thing about me. Cause every little beautiful thing is on its way. Me, me. How favored am I? Well, let's fuck around and find out. Ask me where my haters at. Well, all them niggas in town. Now see the beautiful thing about me. Is every little beautiful thing is on its way. Other thing but the thing I am. No other thing but the thing I can. Do from the heart cause I know I am. That fucking girl just cause I am. See, the beautiful thing about me is every little beautiful thing is on its way to me. Me. How vivid am I? Well, let's fuck around and find out. Ask me where my haters at. Well, all them niggas in town, you know, see. Cause every little girl me. Cause every little girl me. Cause every little girl me.
ça, Princess Bad Beach, un titre de Yaya Bay sur Radio Campus Orléans. Vous êtes toujours dans Écoute ta fac. On est avec Nathalie Sonnac, qui est professeure à l'Université Paris Panthéon Assas, présidente du comité d'éthique des données d'éducation et ancienne membre du CSA de 2015 à 2021. En mars 2023, vous avez écrit et sorti un essai, Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique, paru chez Odile Jacob. C'est un essai qui est lanceur d'alerte, quelque part, on peut dire.
Oui, complètement. C'est véritablement, j'ai voulu un peu, comme on dit, secouer le cocotier en disant que les médias étaient un impensé politique, qu'on laissait complètement, on ne prenait pas en considération leur modèle économique, la concurrence nouvelle qui est faite par les réseaux sociaux, le fait que nos usages ont complètement été bousculés par l'arrivée du numérique, qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle ère informationnelle et qu'il est temps de prendre des mesures urgentes pour à la fois sauver, enfin même pas à la fois, en fait prendre des mesures urgentes pour sauver nos médias dont le modèle économique vacille au profit d'acteurs qui n'ont absolument pas la mission de produire une information de qualité.
Alors justement, dans ce contexte de production de qualité, on parle souvent de censure de certains médias, de censure de certaines paroles, à contrario de liberté d'expression, de liberté des médias. Je te laisse, Marine, prendre le relais sur cette partie-là.
Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir le terme de censure et quand est-ce que l'on a affaire à elle ?
Définir, c'est un grand mot, mais en tout cas, j'en vois l'idée, c'est-à-dire une instance extérieure qui vous empêcherait de pouvoir vous exprimer librement sur les antennes ou par écrit.
Et dans le monde des médias, dans quel cas est-ce qu'elle est nécessaire selon vous ?
En tout cas, ce que la loi de 86, justement celle qui nous garantit la liberté de communication et qui incombe à l'ARCOM, donc au régulateur, de justement se garantir que cette liberté d'expression et de communication ait bien lieu. Et celle-ci passe par cette possibilité de pouvoir exprimer l'ensemble des expressions et des opinions des courants de pensée politiques et que chacun des citoyens qui regarde, qui écoute, qui entend et qui suit une chaîne de télévision, eh bien, puisse être capable de se forger sa propre idée. Et l'ARCOM est l'instance qui est celle qui nous garantit cette bonne liberté d'expression et de communication. Donc, il nous garantit cette liberté-là. Donc, le sociologue Jacques Ellul disait, il n'y a pas de liberté sans limitation à la liberté. Donc, la loi est là pour cadrer finalement ce champ de liberté d'expression qui n'est pas le même qu'aux États-Unis où eux ils ont vraiment, comme on dit, en free speech. Donc chacun peut dire ce qu'il veut. Nous en Europe et notamment en France, cette liberté est cadrée.
Alors justement, quand la liberté d'expression s'arrête, est-ce qu'on parle systématiquement de censure ?
Non, on voit bien que on est sur une ligne de crête. En tout cas, moi, lorsque j'étais membre du CSA, j'ai bien compris en fait la difficulté finalement d'exercice de ce rôle parce que si vous interdisez une émission en amont, donc un éditeur vous appellerait pour dire est-ce que je peux diffuser et que l'ARCOM serait lui dans la posture de dire oui ou non, et bien là à ce moment-là ça serait de la censure, c'est-à-dire que j'interviens avant que ce n'ait été diffusé. Donc l'ARCOM n'a toujours que possibilité, et c'est une réglementation donc comme on dit non pas ex ante mais qui se fait ex post, c'est-à-dire que après que les idées, les expressions ont été émises, et à lui en fait de dire s'il y a eu atteinte ou pas à cette liberté ou non expression de cette liberté. Mais donc l'intervention de l'ARCOM ne peut se faire qu'après cette expression.
Et à quel moment est-ce qu'on peut dire que ce n'est plus de la censure, mais qu'on a affaire à la loi, par exemple, comme là, pendant une interview, si une personne émet des propos
racistes, transphobes, homophobes.
Oui, alors après, là, c'est du délit. Donc là, oui. c'est plus l'ARCOM. C'est juste, vous n'avez pas le droit d'eux. Et ça, c'est les règles de commune de notre loi et de notre vivre ensemble qui ne sont pas celles de l'ARCOM. Ensuite, l'ARCOM, lui, c'est véritablement une instance de régulation qui signe des conventions avec les chaînes de télévision, ou les chaînes plutôt de télévision signent des conventions avec elles, et tout le monde s'entend pour qu'il y ait une protection du jeune public, pour qu'il y ait justement cette liberté comme d'expression, de pluralisme d'expression. D'ailleurs, c'est bien toute la problématique la polémique qui s'est posée avec récemment sur CNews et surtout sur C8, où RSF en fait a dénoncé, donc Reporters sans frontières avait dénoncé auprès de l'ARCOM en disant que CNews ne respectait pas le bon équilibre du temps de parole dans le cadre de ses émissions, et l'ARCOM a dit qu'elle réalisait ce qu'elle avait à faire, donc ne voyait pas la problématique qui était posée, et RSF est allé devant le Conseil d'État en dénonçant finalement les pratiques de CNews et en disant que l'ARCOM n'appliquait pas ne faisait pas bon usage de la loi, et le Conseil d'État effectivement a demandé à l'ARCOM de réviser sa façon d'interpréter la loi en vue qu'il y ait de plus de pluralisme justement, ou de mieux prendre en compte la question du pluralisme sur les antennes. Tout ça participe finalement de la question que vous me posez, qui est celle de cette liberté, de cette censure d'expression, et on voit bien que c'est une matière grise qui est pas si facile que ça à manier, et si j'ose dire, tant mieux, parce que s'il suffisait d'un mot qui échappe ou d'un dérapage, d'une non-maîtrise d'antenne, comme c'est l'obligation pour les chaînes de télévision, de non-maîtrise d'antenne, de couper le signal, nous serions plutôt dans un régime totalitaire et non pas démocratique. Donc on sait bien que la démocratie, eh bien, c'est cette façon de se garantir et de s'assurer que les vecteurs que sont les médias, ces vecteurs de démocratie, eh bien, remplissent bien ces règles sur lesquelles nous sommes tous entendus.
Alors justement, Nathalie Sonnac, on va pouvoir clôturer cette rencontre. Alors cette année, Ondulation, Radio Campus Orléans fête ses 30 ans. C'est d'ailleurs le sous-titre d'Ondulation, 88.30 ans, médias et numérique libre. Une question que je pose à tous les invités, c'est comment imaginez-vous le monde dans 30 ans? Comment imaginez-vous que seront les médias dans une trentaine d'années? Et également, quel rôle pour les médias associatifs, les médias locaux, comment est-ce qu'ils vont évoluer en 30 ans? Selon vous.
Déjà, bon anniversaire à vous.
Merci.
c'est emballage, et cette question est assez amusante pour moi, parce que je fais partie d'un petit comité de prospective dans le cadre des États généraux, et nous travaillons sur ce que sera l'information en 2050. Et mon Dieu, comme cette question est complexe. Quand l'arrivée en fait de l'intelligence artificielle générative. On parle d'implants dans les cerveaux, de la multiplicité de nos sens, de cette multiplication du nombre de canaux informationnels avec, on aura tous un agent personnalisé dans la main. C'est assez compliqué de se dire quels seront les médias. En tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que la question de l'éducation aux médias et à l'information soit chose commune et courante dans toutes les classes, et ça depuis le plus jeune âge, au moins jusqu'au lycée, qui nous permettra ensuite de détenir un permis, comme un permis de conduire, et bien un permis sur les réseaux, pour apprendre à la fois à se protéger de nos données privées, de nos données personnelles, de notre intimité, de prendre garde à notre libre arbitre et ce qui fait de nous des individus libres, mais toujours égaux en droit. Et ça, en espérant avoir toujours cette foison de médias, et des médias comme le vôtre aussi, de médias associatifs. Aujourd'hui, on a plus de 1000 stations de radio en France, avec des centaines de stations de radio qui sont associatives, et j'espère qu'elles pourront demeurer et existeront toujours dans 30 ans.
Et quel équilibre est-ce que justement les stations de radio locales et également associatives, quel équilibre est-ce qu'elles ont justement avec les médias nationaux, souvent privés ou de services publics?
Je pense que l'important, c'est de trouver son public et de trouver sa niche. Je pense que l'association a aussi un rôle essentiel, évidemment, dans les écoles, sur les campus comme vous, mais aussi des petites associations locales dans des petits villages, parce que l'information finalement locale et servicielle est fondamentale. Je vous donne un dernier chiffre. Aux États-Unis, il y a un canton sur deux qui a perdu sa presse locale, Et la corrélation elle se fait directement avec la baisse de la connaissance pour la chose publique et la baisse des votes. Donc, ça revient à votre première question, le rôle des médias. Le rôle des médias est essentiel. Le rôle des médias permet l'engagement de nous tous sur des problématiques, sur des sujets, sur des thématiques qui nous intéressent. Et le fait de nous garantir cette liberté d'expression, de communication pour tous, qui sont aujourd'hui garantis et assurés par les médias, que ce soit des médias traditionnels, mais également tous les médias en ligne, et j'espère qu'ils vont se multiplier, eh bien, il nous faut que tous ces acteurs-là vivent dans un monde équilibré et puissent justement coexister, et ce sera ça, à mon sens, le bon équilibre.
Et justement, j'en profite en tant qu'ancienne membre du CSA, étant donné que les radios associatives, elles sont généralement financées par de l'argent public, par des subventions, notamment avec le ministère de la Culture. Est-ce qu'on peut dire quelque part que les radios associatives constituent une sorte de service public associatif ?
Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais dans la mesure où la financiarisation se fait par l'État, on peut y penser. On peut aussi penser que les citoyens d'Entrenton seront encore plus engagés, auront compris qu'une information de qualité est indispensable et qu'il y aurait un peu plus de monde qui sera prêt à payer pour éviter finalement qu'on se retrouve dans un monde à deux vitesses avec ceux qui savent et qui ont les moyens de se payer une information de qualité pour prendre des décisions et pour être justement des citoyens et pas simplement des consommateurs bien aiguillés par une algorithmie, une intelligence artificielle qui propose une collecte de vos données gratuitement en échange finalement d'une orientation politique.
Alors, il y a encore mille et un sujets qu'on aurait pu évoquer ensemble, justement, avec les algorithmes, l'intelligence artificielle. Marine avait préparé une partie, malheureusement, on ne va pas pouvoir en parler sur, justement, les données numériques des étudiants sur les différentes plateformes. Mais on va devoir se quitter. J'espère qu'on pourra se donner rendez-vous, Nathalie Sonnac, bientôt à l'antenne de Radio Campus Orléans pour parler de plein d'autres sujets. En tout cas, je le rappelle, vous êtes professeure à l'université Paris-Panthéon-Assas, présidente du comité d'éthique des données d'éducation et ancienne membre du CSA de 2015 à 2021. Merci infiniment d'avoir été avec nous à l'antenne de Radio Campus Orléans.
Et auteur du Nouveau Monde des médias, une urgence démocratique. Merci beaucoup, merci à vous de votre invitation.
Une urgence démocratique, le mot est donné. Et merci à toi Marine d'avoir été avec moi sur cette interview. On continue en musique avec justement un mot qu'on espère voir apparaître justement dans ce milieu médiatique et audiovisuel, c'est le progrès. Progress, c'est un titre de Dino Brandao sur Radio Campus Orléans dans Écoute ta fac. Restez avec nous.
Progress. crowd of.
Ondulation, ça continue sur Radio Campus Orléans pour encore 5 minutes pour cette édition d'Écoute ta Fac, mais jusqu'à vendredi. Et d'ailleurs, jeudi, on vous propose au Bouillon une programmation spéciale de concerts, de performances, de live. On en parle avec toi, Viviane, notre chargée d'antenne et de la programmation musicale et aussi de la programmation artistique sur scène. Salut.
Salut. Alors déjà, on remercie le Bouillon de nous accueillir, en effet, pour toute cette semaine et de mettre à disposition, en effet, à la fois les salles, le matériel, les personnels, tout ça. Merci beaucoup à l'équipe du Bouillon de nous recevoir aussi le 30 mai, en effet, pour une émission, pour une soirée spéciale Ondulation. Alors on commence à 20h pour le public avec un mix ambient musique, intelligent dance music d'Intida. Intida, elle a toute l'année en effet participé aux ateliers de Radio Campus et elle s'est plutôt orientée vers le mix, vers les DJ sets, la sélection musicale, les enchaînements, tout ça. Donc elle vous a concocté une belle playlist ambient musique, intelligent dance music. Ensuite, il y aura Plot et FZ pour la performance live coding. Plot fait des DJ sets également, plutôt dans un registre gabber. Là, on est plutôt sur du live coding, des choses un peu plus conceptuelles et ambiante, fantomatique un petit peu. Et il y a également FZ qui fera du VJing. Donc, c'est la même chose que le DJing, mais pour la vidéo. Voilà, on connaît le mapping, on connaît tout ça et ça permet en effet de pouvoir programmer du visuel sur cette performance de live coding. Plot et FZ, donc ça, ce sera à 21h. À 22h, Orange Pression, un live techno avec beaucoup, beaucoup de machines. Il n'y a pas d'ordinateur sur scène. C'est vraiment le parti pris de Orange Pression. Orange Pression, c'est un producteur local voilà, de musique électronique. Il s'est révélé, en fait, après le Covid. Il a vraiment, je pense, profité de cette période du Covid pour en faire une période créative. Ça arrivait à beaucoup d'artistes qui, justement, étaient un petit peu dans quelque chose... dans une recherche ou quelque chose comme ça. Et le Covid a permis pour certains, en effet, de développer une création artistique plus personnelle. Et puis, Klaus finira la soirée. Klaus, vous le connaissez, c'est Lucas qui était à cette même place pendant Écoute ta Fac à 12h tous les jours. Et bien là, il va proposer, comme une Tida, en fait, une sélection musicale. Voilà, c'est des gens qui ont appris à mixer cette année et c'est le parti pris aussi du Grand Bain. C'est toujours de mettre sur scène les personnes qui ont appris en fait à se débrouiller avec des techniques radiophoniques toute l'année, donc soit en atelier, soit par eux-mêmes en fait. Et ben, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des jeunes pousses qui vont pousser les vieilles pousses, on espère. Voilà, donc voilà pour la programmation du 30 mai.
On retrouve en effet la billetterie sur notre site internet, c'est orléans.radiocampus.org, mais également sur les sites du Bouillon, lebouillon.fr, le Bouillon qui est donc cette scène culturelle et artistique de l'université d'Orléans qui nous accueille, tu le disais, hein, le Grand Bain, un Grand Bain qui est olympique. Et justement, cet après-midi, à partir de 16h, vous avez rendez-vous avec Thomas pour une émission spéciale Ondulation autour des médias et de la visibilisation des minorités dans le sport. On en a parlé très brièvement à l'instant avec Nathalie Sonac. Il recevra notamment Thomas sur ce plateau Fabrice Marioni, journaliste et fondateur de Handisport TV, Karine Yasmine Kounté, sociologue spécialisée dans le genre, l'inclusivité et la diversité, Anouk Boshi qui est chargée de communication et qui organise aussi les équipes autour de l'Orléans Masters Badminton, un tournoi de badminton partenaire de Radio Campus Orléans depuis maintenant 2 éditions. Également Marianne Amaro, capitaine de l'équipe féminine de l'US Orléans. Allez écouter parce que visiblement l'US d'Orléans a décidé de...
Une actualité douloureuse.
Une actualité douloureuse. On en parlait à l'instant encore une fois avec Nathalie Sonac. Quand on n'a pas de visibilisation, en fait, de visibilité, on n'existe pas. Et visiblement, bah, c'est un peu la mantra de ne pas donner de visibilité aux femmes, justement, dans le sport, dans cette thématique-là. C'est à retrouver de 16h à 17h, du coup, sur l'antenne de Radio Campus Orléans. Restez avec nous sur cette programmation. Allez la découvrir sur notre site internet. Il est 13h. Bel après-midi à vous.